Donc là, c'est concernant l'article quand la paix de l'un entraîne la paix de l'autre. Donc, c'est une question de Magali. Y a-t-il une différence entre les droitiers et les gauchers? Pour les gauchers, ont-ils réellement des avantages à être nés avec cette différence ou ont-ils les mêmes capacités que les droitiers? Je parle au niveau mental, bien sûr, car ils font plus travailler le côté gauche de leur cerveau, donc on pourrait penser qu'ils inversent tout leur fonctionnement intérieur. Bon, alors là, c'est assez marrant parce que vous pouvez constater qu'il y a effectivement il y a beaucoup de droitiers et très peu de gauchers. Alors après, il y a, vous allez me dire, il y a les faux droitiers, c'est-à-dire des gauchers qui ont été de force mis droitiers, et ceci va dépendre forcément d'une certaine forme, on va dire, de polarité. Hein, vous pouvez imaginer que nous avons, si nous regardons au niveau du corps humain, nous avons plusieurs axes de polarité. C'est-à-dire que quand nous regardons au niveau du bas, en bas, bah, on va dire c'est du plus, hein, c'est la Terre là-bas, okay, hein, donc Agartha, donc c'est du plus, et puis la tête là-haut, c'est du moins. On est d'accord. Oui, mais il y a aussi le devant et puis il y a le derrière. Ah, bah, alors voilà, alors on dit bah, devant, c'est le moins, c'est-à-dire l'aspect, je vois tout, c'est pas si vous avez regardé, mais on a les yeux, le nez, la bouche, tout devant. Hein. C'est-à-dire tous vos sens principaux sont devant. Ça veut dire c'est le côté masculin. Puis derrière, bah, vous allez avoir le côté féminin. D'accord, ok, très bien. Oui, mais vous dites oui, mais il y a aussi le côté gauche, puis il y a aussi le côté droit. Donc si vous regardez bien, vous allez voir que si vous prenez votre aura, vous allez avoir en fait trois plans distincts qui vont donner 8 compartiments. Et donc, bah, après ça, bah, quand les gens ils disent ah oui, mais j'ai un cerveau gauche, j'ai un cerveau droit, oui, mais il y a aussi l'avant et puis il y a aussi l'arrière. Donc, ce que je ne veux pas faire aujourd'hui, c'est de tomber dans les détails de tous ces trucs de cerveau gauche et de cerveau droit, car dites-vous bien une chose, c'est que quand nous allons passer en 5D, 6D, nous allons avoir des changements, on va dire, morphologiques. Ces changements morphologiques vont apporter que vous savez, entre les deux hémisphères du cerveau, on a une espèce d'os au milieu, je ne me rappelle plus le nom, mais enfin d'os, un espèce de truc au milieu dans laquelle sont incrustés, on va dire, la glande pituitaire et l'hypophyse, si ma mémoire est bonne, enfin bon bref, enfin, il y en a deux, celle qui correspond au sixième chakra et celle qui correspond au septième. Eh bien, ces deux-là, eh bien, sont proches, entre guillemets, et puis bah, quand ils résonnent, ça fait résonner le corps calleux, voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, il fait résonner tout ça, et puis bah, vous avez un côté gauche, un côté droit, donc un côté féminin, un côté masculin. Un qui va regarder, on va dire, les choses d'une manière logique, tandis que l'autre, ça va être, il va le regarder selon la notion féminine, c'est-à-dire la notion d'interpénétration musicale des vibrations, on va dire. C'est-à-dire que c'est le côté magnétique, tout se mélange et vous ne savez pas trop ce qui se passe. Alors les gens appellent ça la créativité, enfin tout ce que vous voulez. Et puis bah, il y a l'autre hémisphère qui, lui, va être beaucoup plus la logique, le mental, le papapi, papapa, enfin bref. Alors chacun a, surtout les consultants, tout ça, qui veulent vendre quand même ben, des choses, je dirais, aux différents patrons pour qu'ils contrôlent encore mieux, on va dire, leurs esclaves. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il parle effectivement de ces deux hémisphères, mais il parle aussi du cerveau avant, enfin de la partie avant et de la partie arrière. Parce que devant, c'est pas pareil que derrière. En effet, si vous regardez derrière, bah, vous avez le cervelet qui est en dessous, hein, entre guillemets, et vous allez voir que dans votre transformation que vous avez aujourd'hui, hein, qui est donc dans ce passage de la 4D, eh bien, vous allez voir que votre cerveau, quand vous allez ressentir des choses, enfin, je ne sais pas si ça vous arrive, mais bon, moi, c'est assez courant, je sais quelque part quand ça comme dirait l'autre, quand on me fout les mains dans le bocal et que ça trifouille. Je sens où ça trifouille. Eh bien, quand ça trifouille derrière, c'est qu'on est en train, en fait, de vous ôter, on va dire, les choses fondamentales qui vous séparent, entre guillemets, de votre véritable identité. Vous savez qu'au niveau du cervelet, c'est beaucoup plus tout ce qui touche les trucs instinctifs, réflectifs, c'est-à-dire bon, manger, enfin quand je dis manger, c'est votre cœur qui bat, votre respiration, tout ça c'est géré d'une manière totalement autonome. Et peu de personnes parlent du cervelet. C'est vrai, parce qu'il n'est pas intéressant. Parce que c'est du basique, ça tourne, on ne sait pas pourquoi ça tourne, on ne sait pas comment ça tourne, mais ça tourne. Donc bon, bah voilà quoi, on ne va pas chercher là-dedans. Mais quelque part, dites-vous bien que plus vous allez travailler dans la partie arrière du cerveau, plus en fait vous vous rapprochez du voile de l'oubli. Et c'est pour ça que si vous êtes suffisamment sensible et que vous buvez un verre d'alcool, eh bien vous allez voir comment votre cervelet va se faire engluer. C'est comme si on mettait un filet tout autour du cervelet et qu'on vous coupait toutes les connexions. En clair, c'est vous avez ni plus ni moins vos hémisphères cérébraux qui sont complètement déconnectés du ciel. C'est-à-dire que les gens disent oui, mais c'est bon le vin et ceci, oui, ok, d'accord, mais moi j'en bois pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je bois du vin, enfin du vin, de l'alcool, eh bien c'est systématique, on m'arrache les antennes, point barre. Donc ça veut dire je deviens aussi con que tout le monde, enfin aussi bouché à l'émerie, excusez-moi, que tout le monde, et puis on me dira ah bah oui, mais c'était bon un petit verre de vin. Oui, d'accord, pas de problème. Et c'est pour ça que plus un individu va boire d'alcool et plus il se déconnecte de lui-même, plus il épaissit, on va dire, son voile de l'oubli. Hein. Et d'ailleurs, c'est l'objectif visé. Quand quelqu'un boit, généralement, c'est qu'il n'est pas content d'être sur Terre, s'il y a quelque chose qui le fait chier. Hein. Et donc, il se dit, ah, moi je bois, c'est pour oublier. Oui, d'accord. Ben oui, c'est normal. Il se sépare de lui-même. Donc, quelqu'un qui boit, enfin, ben, parce que je prends l'alcool, parce que c'est ce qui est le plus violent, on va dire, à ce niveau-là, sachez que l'alcool détruit deux choses, votre foie, hein, et vos neurones. Donc, d'abord, vous avez une cirrhose du foie. Donc, au niveau du foie, c'est simple. C'est-à-dire que c'est votre foie va filtrer votre sang. Donc, ça veut dire ce qu'on appelle l'âme, d'une certaine manière. En clair, vous détruisez l'usine chimique. Donc, ça veut dire vous allez vous auto-intoxiquer au point que vous allez en crever. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième, bien, ça vous détruit les neurones. Ça veut dire que bah, vous allez avoir un gruyère là-haut qui va être assez conséquent. Mais ce que les toubis ne disent pas, c'est que ça vous coupe complètement les connexions avec vous-même et le ciel. Enfin, quand je dis le ciel, c'est-à-dire tous les autres mondes. Voilà pourquoi plus un individu va boire et plus, ben, par exemple, si vous buvez beaucoup le même jour, hein, vous allez prendre une biture, eh bien, vous allez voir que vous allez petit à petit, les choses vont se déconnecter. Hein. Et puis, ben, vous allez tomber à la rigueur dans un coma éthylique, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça ne réagit plus du tout. Hein. Bon, ben, vous êtes déconnecté, mais vous n'êtes pas déconnecté par le devant, vous êtes déconnecté par le derrière. Et donc, généralement, quand les gens, vous savez, dans les débuts des années 50 ou 60, ils se faisaient lobotomiser, c'est-à-dire qu'ils se faisaient ôter une partie du cerveau devant parce qu'ils avaient mal au crâne. Eh bien, ça, c'est la partie mentale, c'est la partie, quand je dis mentale, c'est la partie 3D, on va dire. C'est-à-dire, c'est je pense, donc j'ai les trucs, j'ai tel problème, j'ai ci, j'ai ça, puis j'ai des mal au crâne, bordel! Eh bien, comme ils ne savaient plus quoi faire pour ôter les mal de Crohn, bah, on n'a qu'à ôter les parties du cerveau à cet endroit-là, donc la lobotomie, et donc à ce moment-là, on est peinard. Effectivement, ils étaient peinards, sauf qu'ils oubliaient qu'ils avaient coupé, on va dire, un certain nombre d'antennes au niveau conscience. Et après, bon, au niveau inconscient, la partie arrière est plus importante. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de derrière, vous avez un espèce de signal, qui une fréquence, une horloge, qui vous envoie dans votre cerveau une fréquence. C'est cette fréquence qui vous donne comment dire, l'illusion d'une réalité. Donc quand vous êtes dans l'illusion de cette réalité, c'est-à-dire que, en fait, si on change la fréquence qui a été envoyée par le cervelet à cet endroit-là, hein, dans tout le corps calleux, eh bien, votre vision des choses va changer et vous ne verriez absolument plus du tout la même chose. Donc, il y a une horloge derrière. Hein, ça fait clac, 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 clac. Et donc, quand vous êtes dans ce qu'on appelle les états dissociés de conscience ou le truc comme ça, eh bien, ça veut dire simplement vous faites une variation sur... vous avez le variateur et vous tournez le bouton. Et donc, vous allez voir les choses d'une manière différente et surtout les ressentir d'une manière différente. Donc, quand on parle cerveau gauche, cerveau droit, c'est marrant, mais en fait, c'est très limitatif en termes de fonctionnement. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que quand nous serons en 5D, eh bien, le fameux corps calleux qui est au milieu, puisque vous avez le sixième chakra et le septième qui sont côte à côte, eh bien, va faire que ce corps calleux va se dissoudre. Parce qu'on dit que c'est lui qui relie l'hémisphère gauche de l'hémisphère droit. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Il le relie à 5%, parce qu'il l'empêche à 95%. C'est-à-dire que c'est un mur. Et donc, ce voile de l'oubli, autant on a, on va dire, le premier voile de l'oubli qui se situe au niveau enfin, du cœur s'appelle le diaphragme, hein, c'est-à-dire que le diaphragme, c'est votre véritable premier voile de l'oubli. C'est là où vont sont bloquées toutes vos émotions. Et forcément, plus votre diaphragme va être, je dirais, coupé, hein, bloqué par les émotions, plus vous aurez une respiration faible, une profondeur de respiration faible, donc plus une capacité mentale qui va être affecté, diminué. Parce que s'il y a une petite respiration, votre cerveau, lui, il ne va pas pouvoir pédaler vite. Hein. Donc vous avez ça. Donc petite respiration va entraîner donc forcément plus de blocage, puisque nous voyons qu'ici, sur le schéma ici, nous voyons que c'est bien votre mental qui va déclencher l'émotion. Donc le résultat, plus vous avez les émotions qui bloquent votre diaphragme, plus à ce moment-là votre mental va paniquer. Et plus il panique, plus il va entraîner d'émotionnel. Résultat, vous êtes dans une spirale infinie qui va vous auto-bloquer. Le résultat, on le connaît, ça s'appelle la vieillesse, ça s'appelle le vieillissement, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire que nous sommes tellement rentrés dans ce fonctionnement d'action-réaction, fait que petit à petit, nous nous sommes littéralement asphyxiés. Hein? Alors, je veux dire, c'est pas suffisant, parce que même si on a des tas d'émotions, des tas de choses qui nous bloquent et un mental qui panique pour rien, ça n'empêche pas que les gens, il y en a qui vont se mettre à fumer pour qu'il y ait encore moins d'oxygène qui pénètre dans le sang. Et puis ça suffit pas, parce qu'ensuite ils vont quasiment bouffer pour 4 pour avoir des digestions longues et bien lourdes, avec des ingrédients pas possibles, alcool, café, viande, enfin tous les trucs qui vont encore ralentir la machine à mort. Et puis en plus, comme ils sont vachement doués, ils se sont dit, ben, faut qu'on mange matin, midi et soir. Vous comprenez que la mécanique, elle souffre, hein. Elle souffre énormément, et donc bah on amène, ça amène toujours les mêmes problèmes. Donc ce que je voulais toujours dire, excusez-moi, je prends des petits chemins de traverse, c'est que quand nous allons passer en 5D, eh bien le corps calleux, hein, correspond en fait d'une certaine manière au second voile de l'oubli. Hein, donc le second voile de l'oubli, souvent je le mets dans mes schémas, vous savez, tout en haut, là, entre au niveau de la Lune, on va dire, d'une certaine manière, entre l'atmosphère et le vide, eh bien ce second voile de l'oubli, nous l'avons dans le crâne, ça s'appelle le corps calleux. Donc ce corps calleux va se dissoudre. Ça veut dire qu'il se perfore. Il va, c'est une espèce d'os, hein, c'est une cristallisation, on va dire, que nous avons fait, eh bien, il va progressivement devenir poreux. Et de plus en plus poreux, qui va faire que, effectivement, les ondes qui vont passer du cerveau droit au cerveau gauche vont travailler en harmonie. Hein, et c'est pour ça, quand on dit équilibrer votre masculin-féminin, ben, c'est vous équilibrer tout ce qui va toucher l'intuitif par rapport à tout ce qui est la logique. Et bien, tout ça, c'est la même chose. Hein. Simplement, vous allez partir aussi, comme dirait l'autre, du front vers l'arrière de la tête. Donc le processus ascensionnel, c'est je vais de devant vers l'arrière, vers ce qui est aux commandes véritables. Donc si vous allez suffisamment loin dans vos recherches, vous verrez que par exemple les Japonais, eh bien, veulent récupérer le petit nounours qu'il y a juste derrière, vous savez, là, le fameux atlas ou je sais pas quoi là, parce que pour eux, tout est là. Et ils n'ont pas tort. Ça veut dire qu'ils ont complètement raison. Mais. Parce qu'eux, ils croient que si ce truc-là n'est pas incinéré, s'il n'est pas mis à un endroit quelque part, l'âme de la personne ne peut pas se dégager. C'est pas faux, mais bon, c'est pas complètement vrai non plus, tout dépend comment on regarde les choses. Mais concrètement, eh bien, vous allez voir que si on vous trifouille dans le cerveau, d'abord on va vous trifouiller beaucoup plus au niveau de la couronne, enfin on va vous trifouiller là, comme dirait l'autre, on commence à perforer comme un puits, puis après vous allez voir que progressivement ça se dirigera vers derrière. Hein, parce que c'est une reconnexion entre vos hémisphères et votre cervelet. C'est-à-dire qu'en vivant votre instant présent, vous allez être plus en lien direct avec la création. Car je vous rappelle que l'arbre de vie, c'est votre moelle épinière. Donc, ça veut dire que vous allez reconnecter votre conscience à la moelle épinière. Et votre cerveau, les gens disent c'est un ordinateur, en fait c'est faux, c'est une grosse antenne. C'est une très très grosse antenne. Hein. C'est comme un arbre. C'est comme dirait l'autre. Il faut voir l'arbre sous deux angles. Vous regardez la partie qui est immergée, c'est-à-dire celle qui est dans la terre, avec toutes les racines. Eh bien, ça, c'est votre système nerveux. Donc, c'est la colonne vertébrale, moelle épinière, avec tous les nerfs. Ça, c'est toutes les racines de l'arbre. Et puis, ben, vos hémisphères cérébraux, c'est tout simplement les feuilles de l'arbre, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Donc quand vous avez des pensées, ben, moi je dis tout simplement, les pensées, c'est comme, on peut dire, un courant électrique qui va passer dans les feuilles parce qu'il y a du vent. Et donc quand il y a du vent, les feuilles elles bougent. Et donc il y a une contrainte qui se fait sur les tiges qui fait qu'il y a comme un courant qui passe. Donc les pensées sont le résultat du vent. Et c'est pour ça que quand on dit « vous êtes en paix », hein, rappelez-vous, les pensées, c'est le vent. Donc, quelque part, quand vous êtes en paix, ça veut dire qu'il n'y a plus de vent. Et s'il n'y a plus de vent, les feuilles de l'arbre ne bougent plus. Et comme elles ne bougent plus, ben, il n'y aura pas de vent supplémentaire, donc de pensée. Et donc, plus vous calmez votre mental d'une manière naturelle, parce que vous êtes en paix, et plus automatiquement, vous aurez moins de pensées. Donc on ne peut pas supprimer les pensées, on ne peut que ralentir le nombre qui nous arrive. Donc plus vous êtes en panique, plus vous avez cet aimant-là, attendez, je vais effacer, donc plus cet aimant-là vous le faites gigoter, et plus l'autre il va gigoter aussi. C'est évident. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut commencer par la paix du mental, qui forcément, si vous ralentissez cet aimant-là, eh bien vous allez forcément ralentir celui-ci. Donc la paix du cœur ne peut venir que par la paix de l'esprit. Or, la paix de l'esprit ne peut venir, et ça c'est le but de l'article, que je vous rappelle, eh bien, ne peut venir que si vous avez des tas de questions, c'est vachement bien, mais moins vous en poserez et mieux vous porterez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir. Mais il faut éviter de se laisser embarquer dans la spirale du mental. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh bien, vous allez gigoter, ça va tourner, puis ça va devenir, puis ça va être la panique. La panique. C'est simple. Donc, si vous comprenez effectivement que si simplement un aimant qui agit réagit, il entraînera forcément votre corps émotionnel. Donc, clairement, moins vous ferez tourner ça, c'est-à-dire que plus vous serez en paix mentale, moins votre corps émotionnel va bouger. Donc, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Vous serez bien sûr beaucoup plus en paix, mais aussi vous serez beaucoup plus en joie. Et pourquoi vous serez plus en joie? Parce que vous serez moins en panique. Donc ici, là, plus c'est calme, et plus vous prendrez le temps de vivre et de voir ce qui est. Par contre, si c'est le bordel, ben votre vie sera un bordel. Voilà. Donc, c'est ça l'histoire des gens qui disent « Ah oui, mais moi, il faut que je médite, il faut que je fasse ci. » Parce que moi, j'ai essayé des centaines de méditations et il n'y en a pas 36 000, je veux dire, qui fonctionnent. Et ça ne veut pas dire que parce que vous l'avez trouvé à un moment, une méditation qui vous fait du bien, que dans 10 ans, elle vous fera toujours du bien. Parce que vous êtes un être en évolution. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas rester coincé sur un type de méditation. Il faut suivre vos intuitions, suivez ce qui se passe et vous allez voir que vous passerez d'une méditation à une autre, à une autre, à une autre, pour vous rendre compte qu'un jour, votre vie ne sera que méditation, et ceci sans vouloir faire une méditation. Car quand on est dans la dualité, quand vous dites « bon, bah, allez, je vais aller méditer », vous dites, vous affirmez à vous-même que vous n'êtes pas en état de conscience réelle et qu'il vous faut aller poser votre cul parce que vous êtes décentré. Parce qu'une fois que vous êtes véritablement centré, que vous êtes en équilibre avec vous-même, automatiquement, vous verrez que la méditation, c'est quelque chose, le protocole et tout ça, vous n'aurez plus rien à faire. Mais vraiment plus rien du tout. Parce que la méditation est une marche, on est d'accord, quand on passe de la 3D à la 4D. Mais quand vous serez en 4D, tout sera méditatif par définition. Parce que méditation, meditare, hein, ça vient du latin meditare qui veut dire s'exercer. Donc plus vous exercez à être ce que vous êtes à chaque instant, et plus vous serez dedans, donc vous n'aurez plus besoin de dire « Ah, il faut que j'aille méditer. » Non, puisque vous êtes en méditation permanente. Alors, pour revenir à cette histoire de droitier ou de gaucher, eh bien, c'est la même chose. C'est une histoire de polarité et de fonctionnement. Donc après, à chacun de voir comment il joue avec, hein, puisque c'est simplement des arrangements de polarité. C'est-à-dire de comment le jus. C'est-à-dire que si je reprends le crâne de quelqu'un, on dirait là il y a l'hémisphère droit, là il y a l'hémisphère gauche, eh bien tout dépend comment le sens. Parce que ici, par exemple, si j'ai pris une molécule, je vais par là, on est d'accord. Mais j'aurais pu très bien partir par là. Vous allez me dire, ah on fait le tour, oui, mais pas dans le même sens. Parce que celui-là va dans ce sens-là, alors que celui-là va dans ce sens-là. Alors là, vous serez droitier, puis là vous serez gaucher. Donc c'est simplement un sens de courant d'énergie. Donc voilà pourquoi les gauchers qui sont, embêtés, hein, parce qu'on leur a demandé des droitiers, ça ne tourne pas dans le bon sens pour eux. Donc ils sont contrariés. Donc est-ce que être gaucher, c'est mieux que d'être droitier? Non. Quand vous êtes gaucher, ça fait chier d'écrire avec l'alphabet, par exemple, quand vous écrivez du français, mais si vous êtes arabe, c'est parfait. Par contre, si vous êtes droitier et vous voulez écrire l'arabe, c'est un peu dur, quoi. Donc, il n'y a pas de truc supérieur à une chose, c'est tout simplement, c'est une histoire de contexte. Voilà. Donc, les histoires d'hémisphères et tout ça, c'est bien, c'est des trucs de consultants vendus cher. Il y a des tas de théories, on est d'accord, mais concrètement, quand nous serons 5D, il n'y aura plus ce côté, je dirais, cerveau droit, cerveau gauche, pour la simple bonne raison, c'est que le corps calleux, donc ce deuxième voile de l'oubli, sera définitivement, et quand je dis définitivement, c'est-à-dire qu'en ce moment, il est en train de se faire perforer à mort, donc une meilleure communication des deux côtés. Parce que si vous êtes en équilibre, forcément, ça va induire que votre magnétique et votre électrique va fonctionner de plus en plus ensemble. Donc forcément, la mer de statique, hein, c'est-à-dire ce corps calleux qui est au milieu, va dégager. Alors après, c'est une histoire de temps. Alors il faut savoir combien il va être troué, combien il va être de gruyère, hein, on est d'accord. Mais une chose est claire, c'est que quand on passera en 5D, ce corps calleux n'existera plus. Donc ce corps calleux n'existera plus puisque ce second voile de l'oubli aura été totalement dissous. Alors, comme c'est quelque chose qui a été cristallisé, on ne va pas le retirer au scalpel. Hein, parce que s'il y a un chirurgien qui vient vous voir et qui dit, bah, attends, je vais te retirer ton second voile de l'oubli, vous commencez, ça va être un peu craignos, là, parce que bah, vos émissaires ne sont pas forcément d'accord. Hein, surtout qu'il y a il y a les deux glandes du sixième et septième chakra qui sont en plein milieu. Donc, enfin, c'est quand même très dangereux. Mais quand nous serons en 5D, ce corps calleux disparaîtra. En clair, eh bien, nous n'aurons plus deux hémisphères, mais plus qu'un. Parce que bah, on aura unifié notre moteur de l'humain. Une question de Chogal. Par rapport au tore et au moteur de l'humain, se peut-il que l'aimant du cœur soit stable, même si l'aimant du mental bouge un peu? Ben, comme dirait l'autre, tout dépend, hein, ici, à quelle vitesse lui va tourner. Parce que s'il se déplace très lentement, c'est-à-dire que si celui-ci se déplace très lentement, lui va réagir très lentement. Là, celui-là réagira très lentement. Si par contre, lui, il bouge très 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 vite, lui, il va plus savoir où il en est, donc il ne bougera pas. Donc, et tu prends deux aimants, puis tu fais les différents essais de vitesse, et tu vas voir que tout va dépendre, entre guillemets, à quelle vitesse, quelle accélération. Donc, c'est de la mécanique pure et dure. En clair, quelqu'un qui dit j'ai le mental à fond, mais j'ai les émotions, j'en ai aucune. Là, je dirais qu'il faut faire attention, dans le sens que c'est quelqu'un qui va dire, bah non, moi j'ai réglé mon problème émotionnel, j'en ai plus. C'est-à-dire qu'en fait, il devient insensible. Alors, insensible, en termes de préhumain, il y a deux façons de le voir. C'est un, d'abord, on dit voilà, je me détache consciemment de tout. Bon, il y a le gamin là qui vient se brûler la main, j'en ai rien à foutre. Insensible. Bon, vous voyez la cata que ça peut apporter. Puis il y a celui qui va se dire, mais il s'est brûlé la main, je vais l'aider, je vais faire tout, mais j'ai aucune panique, j'ai aucune émotion de oh là 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 là, oh là 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 là, et puis je perds tous mes moyens. Non. C'est ça la différence entre les deux. Hein. Donc quand on dit qu'il y a, par exemple, dans le processus ascensionnel, je dirais, une déconnexion, c'est-à-dire un non-attachement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus. De responsabilité, parce que celui qui se désengage complètement des choses en disant non, je deviens insensible, devient un bourreau. Hein, et c'est pour ça qu'on dit que un certain nombre d'individus sur Terre n'ont pas de corps émotionnel. C'est vrai en quelque partie. Hein, donc on dit ils n'ont pas d'âme, non, parce que d'une certaine manière, ils ont coupé suffisamment. Alors ils ont une âme, bien sûr, un petit bout, rien du tout, mais ils ont coupé tous les ponts. Donc ils sont insensibles. Et donc toute forme de vie extraterrestre qui ne possède pas de corps émotionnel, font les choses, ils disent, bon, ben, ça, il faut couper la branche de l'arbre, parce que sinon il va tomber, ils coupent. Ils disent, ça, ces humains, ils nous font chier, on les tue. Ça leur pose aucun problème de conscience, parce qu'ils ne sont pas, n'ont pas de corps émotionnel. Mais quand un préhumain me dit, mais moi, mon corps émotionnel, moi, je suis insensible, non, c'est qu'il s'est bloqué, c'est différent. Généralement, quand ils se bloquent, ils ne sont pas en joie. Par contre, si quelqu'un est en joie et ne panique pas, eh bien, vous avez affaire à ce qu'on appelle un maître, c'est-à-dire à quelqu'un qui, parce qu'il est dans le non-jugement, va agir avec un calme total. Ses gestes seront efficaces, chirurgicaux, aucune panique. Ça ne veut pas dire qu'il est détaché de la chose. Non, il est complètement impliqué, même encore trois fois plus que ce l'autre qui hurle et qui gigote et qui dit « Oh là 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 !» Et donc, si vous voulez, c'est ça la différence entre, je dirais, un préhumain et un maître. Quand on dit un maître, c'est quelqu'un qui a équilibré, qui voit les choses, qui est responsable de tout ce qui est autour, qui en est pleinement conscient, mais qui va pouvoir regarder, on va dire, son corps émotionnel, le garder son corps émotionnel extrêmement calme, pour la simple bonne raison, c'est parce qu'il le regarde ici avec un certain détachement, mais pas une insensibilité. C'est ça la différence. Donc quand on passera en 5D, 6D, là aussi, le côté émotionnel, puisque je vous le rappelle, va d'une certaine manière disparaître, puisque ce qu'on appelle les sentiments, c'est votre soi supérieur. Donc vous serez animé de sentiments qui se cachent derrière, parce que je vous rappelle que votre soi supérieur, d'une certaine manière, hein, est en contact avec votre corps émotionnel, hein, puisque votre particule d'esprit, je vous rappelle, elle est en plein milieu du cœur, là. Et votre particule d'esprit, à cause avec qui? Avec votre soi supérieur. Et elle est coincée entre les deux, entre l'émotion et le mental. Donc si vous calmez vos émotions, vous allez avoir des sentiments. Alors quand quelqu'un ici, je fais des traits comme ça, mais pour que vous compreniez que quelque part, plus vous calmerez l'aimant de l'émotion, et plus vous verrez vos véritables sentiments. Et donc il n'y aura plus la confusion entre un sentiment et une émotion. Et vous verrez, ce n'est pas du tout la même chose. Donc un être responsable, c'est quelqu'un qui est passé dans le non-jugement, c'est-à-dire qui a calmé cet aimant nord-sud, qui fait que l'aimant de comment dire, de l'émotion va plus tourner, et donc il aura des sentiments. Et donc cette notion de sentiment lui donnera le sentiment d'appartenance, le sentiment de service à autrui, le sentiment de don inconditionnel. Mais il ne sera pas dans l'émotion. Et il sera encore moins donc dans le jugement, donc dans la panique, donc dans les peurs. Il sera droit dans ses bottes. Il sera ce qu'il est et regardera les choses, ressentira les choses et aura des sentiments pour les choses. Mais se laissera pas embarquer par la dualité qu'est le moteur de l'humain. Et on appelle ça un maître. Et donc, si il est arrivé à calmer suffisamment, on va dire, ce moteur, donc de l'émotion et donc du mental qui est à l'origine des choses, eh bien on va dire qu'il deviendra un maître ascensionné. C'est-à-dire qu'il aura augmenté sa fréquence suffisamment au point qu'il sera au centre de sa 3D, 4D et donc en contact avec son étincelle d'esprit et donc de son soi supérieur. En clair, il pourra passer à la prochaine étape qui est la 5D, 6D, l'expérimentation du moteur du ciel. Donc tant que vous baignerez dans les peurs, tant que vous baignerez dans les émotions et l'amour du préhumain, l'affectif et tout ça, eh bien, vous ne serez pas au centre. Comme dirait l'autre, si j'efface là, vous allez passer au centre de temps en temps. Touf, 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 vous allez passer vraiment de temps en temps. Un maître, c'est, vous voyez, ça serait, on va dire, un préhumain plus ou moins normal. Eh bien, un maître, lui, il navigue là. C'est-à-dire que les mouvements sont faibles et il sera, dans la majorité des cas, centré. Puis arrive un moment, ben, le schéma deviendra, il sera tellement centré que ben, il n'a plus rien à foutre ici, quoi. Donc il passe en 5 des 6. Voilà, enfin, mécaniquement, comment les choses se passent, quoi. Hein? Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà, donc ça, c'était les questions concernant cet art.